La nuit dernière, on allait et venait, vous l'avez vu, entre l'Est et l'Ouest, comme si de rien n'était. Comme si l'on avait rayé 28 ans de séparation totale, plus de 15 années de guerre froide. Et puis aujourd'hui, des milliers de Berlinois étaient montés sur le mur, sans aucune crainte, sur ce mur qui a tué des dizaines d'Allemands de l'Est qui voulaient s'enfuir. Mur terrible, devenu inoffensif, ridicule.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Europe marche avant toute ou marche arrière toute. Ils ont vécu la même histoire, mais envisagent l'avenir dans deux manières totalement différentes, deux optiques radicalement opposées. Elle est assez pessimiste, lui plutôt optimiste. Dans mon Europe, je t'aime moi non plus, 89-2019, Marion van Rettergem, journaliste au Monde, Vanity Fair ensuite, et auteur déjà de Angela Merkel, l'OVNI politique, évoque ses illusions perdues, pleines d'espoir à la chute du mur, pleines de doutes aujourd'hui, assourdi par les clameurs nationales, la peur et l'exclusion, recouvrant le bruit des murs qui tombent et les discours d'ouverture qui, hier encore, lui faisaient entrevoir un avenir bien meilleur. Bonjour à vous. Merci d'être avec
Bonjour.
Nous. Pourquoi, aujourd'hui, assistons-nous, d'après vous, à ce que Zweig qualifiait de défaite de la raison? Et ça, on était à la fin des années 30, hein.
Oui, je suis toujours un peu surprise. Le livre vient de sortir, on me dit que c'est un livre pessimiste, donc je constate qu'il est lu de cette manière-là. C'était pas du tout de cette manière que je voulais l'écrire, enfin c'était pas la tonalité que je voulais donner. Mais c'est vrai que j'ai été un peu rattrapée au fur et à mesure par l'inquiétude en revenant sur des lieux sur lesquels je bourlingue depuis une trentaine d'années. Et donc j'ai cette espèce de vision de 30 ans, de voyage de 30 ans en Europe, et ce passage en effet d'un enthousiasme énorme au moment de la chute de Berlin, où on se disait qu'on était arrivé à la fin de l'histoire au sens noble du terme, c'est-à-dire à l'avènement de la démocratie unanime en Europe. Et aujourd'hui, on assiste à un retournement et un effet totalement contraire à ce qui pouvait être présagé à partir de la chute du mur. Et je constate, donc mon inquiétude vient du fait que, de manière empirique et expérimentale, je me suis rendu compte qu'il y avait des cycles de 30 ans qui ne sont pas anodins. Il se trouve que c'est moi mon cycle personnel de voyage en Europe, mais que ça correspond à un cycle historique très marqué et pertinent, parce que c'est au fond l'histoire d'une génération, et qu'autant il y a eu un premier cycle de 30 ans très constructif du traité de Rome à la chute du mur de Berlin de 1957 à 1989, 32 pour être précis, autant il y a un cycle un peu régressif et décroissant, si on peut dire, de 1989 à maintenant, 30 années où, après un élan de construction et d'enthousiasme, on arrive à ce que l'année 2016 notamment a marqué comme un cran d'arrêt, comme un point d'arrêt aujourd'hui, qui est le référendum sur le Brexit, puis l'élection de Trump, puis plein d'autres événements politiques en Europe qui montrent qu'on est revenu vers une espèce de nationalisme élémentaire, et malheureusement qui rappelle un peu la période préalable à la Deuxième Grande Guerre mondiale. Alors, on n'en est pas là, il y a plein de différences avec les années 30, mais c'est un constat un peu inquiétant.
Alors, cycle qui s'est donc ouvert avec la chute du mur de Berlin et qui serait en train de se refermer avec le Brexit. À vos côtés, Guillaume Duval, bonjour.
Bonjour.
Alors, lui n'en est pas à son premier coup d'essai, éditorialiste à Alternative Économique, auteur de Marre de cette Europe-là, moi aussi, et de Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes, dans Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe, qui vient de paraître aux éditions Les Petits Matins. Vous préférez voir le verre à moitié plein, voyant dans la période actuelle un moment propice au changement vers une Europe plus intégrée, plus écologique et plus solidaire. Ce sont vos mots. Heureux, comme Mark Twain, que vous citez en exergue de cet essai, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La fin d'un cycle, nous dit Marion van Rettergem, et c'est peut-être pas si mal. En somme, d'après vous, Guillaume Duval, est-ce qu'on peut le dire comme ça? On en aurait fini de reculer pour mieux sauter. Là, on est au bord du gouffre. Il faut y aller.
Non, il ne faut pas sauter dans le gouffre, mais effectivement, donc c'est la thèse du bouquin, c'est de dire on a toujours tendance à penser l'avenir comme l'extrapolation du passé récent, donc ça s'est mal passé depuis 30 ans, effectivement l'Europe s'est plutôt défait, les populismes ont monté, les eurosceptiques sont de plus en plus forts, donc on pense que dans les 30 prochaines années ça va aussi mal se passer que dans les 30 dernières, mais en général l'avenir se passe jamais comme ça, hein. C'est jamais l'extrapolation du passé, il se passe des choses nouvelles, et donc je souligne dans ce bouquin, qu'il y a aujourd'hui, dans tous ces dangers, dans toutes ces menaces, dans toutes ces crises, qui sont réelles et qui peuvent entraîner une explosion, hein, je sous-estime pas le risque, il y a aussi des opportunités si on sait les saisir. Beaucoup d'opportunités, on y reviendra peut-être, mais je pense que la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à changer l'Europe aujourd'hui, c'est d'abord parce que les Français croient qu'on ne peut plus la changer. On est aujourd'hui pris dans une déprime collective sur ce sujet-là, donc je pense que la plupart des Français ont compris aujourd'hui qu'un Frexit, c'était pas une bonne idée, que personne nous attendait en dehors de l'Europe, le Brexit, s'il y avait des gens qui n'étaient pas encore convaincus, la manière dont se passe le Brexit a sans doute achevé de les convaincre, mais en même temps, ils pensent aussi que l'Europe d'aujourd'hui va très mal, marche mal, est un support d'abord du dumping social et du dumping fiscal, et ils ont raison, mais ils pensent aussi qu'on ne peut pas changer cette situation, et c'est pour ça qu'elle ne change pas, en fait, c'est que cette passivité, cette incapacité à concevoir que ça peut changer, est en fait performative, elle est autoréalisatrice, tant que les Français sont convaincus de ça, ils ne demandent rien, ils n'essayent rien, et donc ça ne bouge pas.
Et voilà donc, Guillaume Duval, que vous détricotez dans cet essai, un à un, chapitre après chapitre, tous nos préjugés, pas de fatalité avec vous. Donald Trump devient le meilleur allié de l'Europe, le Brexit est une chance d'en finir avec l'Europe marché, l'Allemagne est peut-être moins puissante qu'il n'y paraît. Le Brexit, tous les deux, vous incitez déjà sur ce moment vécu comme un coup de tonnerre. L'événement, écrivez-vous, Marion Van Rettergem, et cet événement qui solde ces 30 ans que vous évoquiez, le premier signe électoral d'une société qui explose, première manifestation d'une stratégie populiste, premier usage aussi des fake news dans une campagne électorale, première déchirure de l'Europe, premier désastre démocratique du 21e siècle.
Bonsoir à tous. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. La phrase résonne à la une de l'actualité du monde entier depuis ce matin. 43 ans après son adhésion, la Grande-Bretagne a fait le choix historique de dire non à cette aventure commune qui avait pour ambition d'être un idéal commun. Un mot qui fera donc date, le Brexit, et un scénario envisagé devenu réalité avec, vous allez le voir, des réactions parfois passionnelles. Résumé de ces dernières heures avec Clément Le Goff.
Leur choix est historique. Les Britanniques claquent la porte de l'Europe. Près de 52%, 17 millions de votes pour quitter l'Union. Et voici l'homme par qui tout est arrivé.
On a récupéré notre pays.
Ce matin, l'europhobe Nigel Farage jubile.
Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant.
Son camp l'emporte au terme d'une longue nuit de suspense. 4 heures du matin, sur la BBC.
Nous pouvons maintenant dire que la décision prise par notre pays il y a 43 ans d'adhérer au marché commun a été révoquée. Nous allons quitter l'Union européenne.
L'onde de choc est mondiale. Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir quitté l'Union européenne depuis sa création.
Juin 2016, pour qui sonne le glas, l'Europe, première grande déchirure dans l'histoire de l'Europe, Guillaume Duval. Vous ne dramatisez pas ce moment ?
Oh, je crois que c'est un moment important, mais c'est pas forcément un moment négatif. D'une part, tout le monde s'est rendu compte que même la plus grande puissance du 19e siècle, celle qui avait dominé le monde, personne ne l'attendait que si elle sortait de l'Europe. Hein. Donc les Chinois leur ont dit « on discutera plus tard, si vous voulez, de commerce, etc. » Les Américains leur ont dit « ouais, on peut discuter, mais à condition que vous acceptiez du poulet au chlore, des OGM partout et du bœuf aux hormones. » Le Royaume-Uni ne pèse plus rien à l'échelle mondiale une fois qu'il est sorti, et chacun s'en est rendu compte. Après, du point de vue des Européens eux-mêmes, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, dans la mesure où c'est pas simplement un cycle de 30 ans, c'est un cycle de 40 ans que c'est en train de clore. C'est le cycle du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, qui était notamment porté en Europe par Margaret Thatcher et ses successeurs, donc qui ont imposé une logique d'Europe marché, qui se sont opposés à tous les efforts qu'on avait pu faire pour avoir de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale. Donc sur ce plan-là, si les Britanniques s'en vont, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut évidemment garder des bonnes relations avec eux, ne serait-ce que sur les questions de défense, où ils peuvent jouer un rôle important pour construire une défense européenne. Mais pour le reste, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus.
Marion Van Rettergem, vous dites aussi à toute chose malheur est bon, et vous y trouvez quelques bons côtés à ce Brexit, et notamment cette idée que dans le compromis qui est tenté d'être négocié depuis plus de 3 ans, C'est un véritable exercice, écrivez-vous, de contorsionnisme pour rester le plus près possible de l'Union européenne, et puis que ça nous a quand même permis de voir aussi des dirigeants européens plus unis que jamais face au Brexit. Néanmoins, vous avez quand même vécu ce Brexit avec beaucoup d'inquiétude. Vous dites c'est quand même une période où le mensonge est devenu la règle, où tous les poisons de la démocratie se sont révélés et réveillés.
Oui, je suis d'accord avec Guillaume Duval sur le fait qu'il y a quelque chose de positif dans ce Brexit. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes conclusions que lui, parce que je pense que c'est dramatique que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne symboliquement, politiquement, diplomatiquement, qu'elle nous apporte énormément et qu'elle affaiblirait terriblement l'Union européenne si elle part. Je dis bien si elle part, parce que le Brexit est loin d'avoir lieu. On en parlera encore dans 10 ans, à mon avis. Ils seront encore en train de négocier des départs, non-départs, et je pense qu'il y aura un jour ou l'autre un deuxième référendum. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il reste dans l'Union. Bref, ça c'est la parenthèse. La bonne chose, c'est qu'en effet, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous les leaders nationalistes populistes d'aujourd'hui ont mis un point d'arrêt absolument radical à leur discours de quitter l'Européenne. Il y a encore quelques olibrius comme Philippot ou Asselineau qui disent n'importe quoi et qui continuent à parler de Frexit. Mais on remarque que Marine Le Pen, etc., a totalement sorti ça de son discours parce qu'elle voit bien que c'est difficile et que finalement ça a du bon et c'est pas très populaire et on ne s'en sort pas, les Britanniques n'arrivent pas du tout à sortir de cette question-là. La deuxième chose positive, c'est qu'en effet les Européens jusqu'à maintenant, parce que c'est le mur et l'unité est un tout petit peu en train de s'effriter entre Macron et Merkel sur ce sujet, on l'a vu au dernier Conseil européen, mais malgré tout ils sont restés extrêmement unis face pour maintenir la cohérence de leur club. Être dans l'Union européenne, ça veut dire, contrairement à ce que croient les Britanniques, qui ont vendu un Brexit où ils allaient obtenir absolument tout et garder tous les avantages et rejeter tous les inconvénients, ben non, un club, il y a des contraintes aussi, il y a des droits et des devoirs, et ça, les Européens ont très bien su le maintenir. Maintenant, c'est vrai que je trouve que, plus profondément, le Brexit n'est pas une affaire britannique. On a tendance à considérer que que ça peut se régler, soit c'est bien qu'ils partent, soit c'est pas bien, mais que c'est leur affaire à eux. Pas du tout, parce que je pense que c'est un moment clé. Cette affaire de cette année 2016 a été vraiment fondamentale et a raconté quelque chose de notre histoire commune en Europe, mais pas seulement en Europe, d'ailleurs en Occident. Encore une fois, le Brexit n'est qu'une le premier domino la première carte d'un grand château très fragile. Il a été suivi de très peu par l'élection de Trump. Notre élection présidentielle française a montré on est sauvé par les institutions de la Ve République qui jouent comme une sorte de cache-sexe, mais en fait on serait dans un régime parlementaire, on serait en Italie, hein. On a vu qu'on avait failli avoir un deuxième tour avec qui opposait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, donc deux opposants à l'Union européenne, deux anti-systèmes radicaux. On est passé très près de tout ça. Il y a eu la réélection de Viktor Orban, il y a eu l'élection de Bolsonaro au Brésil. Enfin, le Brexit raconte beaucoup de choses et il y a toujours, comme vous dites, c'est vrai que ce qui s'est passé de très nouveau, d'abord l'usage du référendum.
Mais justement, raconte quand même aussi ce qu'on a vécu en France avec le référendum de 2005, c'est-à-dire que quand on donne la parole à un peuple, ce peuple-là, les Britanniques ont fait le choix de ne pas rester et ont aussi manifesté, peut-être Guillaume Duval aussi, leur sentiment de non-appartenance à ce club, comme vous l'évoquiez, à ce club de dirigeants.
D'abord, je pense que c'est compliqué de comparer le référendum sur le Brexit à celui sur 2005, parce que c'est pas exactement la même manière.
Pas la même question.
La même question, ouais. Et on n'a pas menti. En 2005, le problème, c'était un problème de compréhension de ce que ça voulait dire, ce traité constitutionnel. C'est vrai que c'était assez trop subtil, à mon avis, pour être soumis à référendum, comme l'était la question sur le Brexit, puisque finalement, personne ne savait ce que voulait dire quitter l'Union européenne. Est-ce que c'était rester ou sortir du marché unique? Les Brexiteurs eux-mêmes ont dit absolument tout et son contraire là-dessus, se contredisent en permanence et mentent en permanence. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui a été nouveau dans le référendum sur le Brexit par rapport à 2005, c'est l'usage des réseaux sociaux, des fake news terriblement amplifiées, avec en plus l'influence des hackers russes, qui se sont immiscés dans ce référendum comme ils l'ont fait ensuite dans l'élection de Trump. Et du coup, le mensonge a été érigé en stratégie politique. C'était pas seulement une petite promesse électorale de bas étage. C'était une stratégie politique.
Guillaume Duval.
Oui, enfin, il y a quand même beaucoup plus que ça dans le succès du Brexit et dans le succès des eurosceptiques ailleurs en Europe. Hein. C'est la révolte des couches populaires face à une situation qui est devenue insupportable pour eux. Hein. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé depuis la crise de 2008. Donc, on a eu des politiques monétaires extrêmement laxistes. Hein. Donc, la BCE qui a abaissé fortement ses taux d'intérêt, qui a injecté des milliers de milliards d'euros dans l'économie européenne. Ça a eu comme conséquence de renflouer les banquiers, les spéculateurs qui nous avaient conduits dans le mur, de leur permettre de se repayer des bonus formidables. Ça a eu comme conséquence de faire monter les prix des actions, les prix de l'immobilier, et donc d'enrichir les plus riches. Et dans le même temps, on a continué à avoir des politiques d'austérité budgétaire très strictes, c'est-à-dire à baisser les dépenses sociales, à augmenter les impôts, mais simplement sur les couches populaires et sur les classes moyennes, parce que les riches, ils pouvaient partir dans des paradis fiscaux, etc. Tout en ayant aussi des politiques déflationnistes du marché du travail, en faisant baisser le coût du travail, en flexibilisant le marché du travail, en ayant plus de précarité, etc. Donc les couches populaires et classes moyennes se portent beaucoup plus mal, les riches vont beaucoup mieux, et c'est une politique qui est totalement insupportable pour les couches populaires. Alors, malheureusement, la gauche a failli parce qu'elle s'est ralliée à ce genre de politique, à la fois en Allemagne avec Schröder, au Royaume-Uni avec Blair, en France avec François Hollande, et donc elle est complètement disqualifiée. Il ne reste face à ça, malheureusement, que les gens de droite et populistes, eurosceptiques, etc., pour canaliser ce mécontentement, mais c'est malheureusement un mécontentement qui est très légitime.
Marion Van Ritter.
Je réagis juste très rapidement, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que il y a eu un ras-le-bol des classes populaires est tout à fait légitime, simplement que les Brexiteurs ne vont en rien résoudre, et puis d'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, mais les plus virulents des Brexiteurs, on a cité tout à l'heure Nigel Farage, Boris Johnson, etc., ce sont des ultra-libéraux, donc ils veulent encore moins de réglementation et de normes de protection sociale que ce que l'Union Européenne peut leur fournir. Au contraire, ils veulent un dumping absolu, ils veulent sortir des impôts, plus de services publics, et on voit déjà, ils sont en train d'assécher leur service national de santé.
Elle est une voix que vous connaissez tous bien, c'était à l'été 2018.
Ces pays nous arnaquent depuis des décennies. Cela ne prendra pas une semaine, cela prendra un peu plus de temps. Mais nous allons le faire. Gardez juste à l'esprit que nous ne pouvons pas perdre 817 milliards de dollars. Nous avons reconstruit la Chine. Ce que l'Union européenne nous fait est incroyable, vraiment méchant. Ils ont fait 151 milliards de dollars l'année dernière. Notre déficit commercial avec l'Union européenne, ils sont gentils, mais ils sont durs. Ils viennent tous me voir demain. Ils viennent tous à la Maison Blanche. J'ai dit, vous devez changer. Ils ne voulaient pas changer. J'ai dit, ok, bon, nous allons imposer des taxes sur vos voitures. Ils envoient des millions de voitures, des Mercedes, des BMW. J'ai dit, nous allons imposer des taxes sur vos voitures. Ils ont dit, quand est-ce que nous pouvons venir? Quand est-ce que nous pouvons être là? Demain, c'est d'accord? Oh les gars, restez avec nous. Restez avec nous.
Voilà, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, la guerre commerciale est relancée entre les États-Unis et l'Europe. En quoi, Guillaume Duval, Donald Trump, le président américain, est-il le meilleur allié de l'Europe? Il vient un peu nous challenger?
Oui. Enfin, d'une part, il poursuit une politique, mais qui est déjà ancienne, hein, de désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe en termes de sécurité, etc. Ce qui nous oblige à nous doter d'une politique de défense commune, d'une politique extérieure commune. Et là, je pense que ça fait 60 ans qu'on tourne autour de cette question, mais cette fois, on va pouvoir y arriver du fait de l'ampleur des menaces extérieures, mais aussi sur le plan commercial. Donc, pour la première fois, un président des États-Unis a dit pour cette raison que l'Europe c'était l'ennemi des États-Unis, donc c'est tout à fait nouveau. Sur le plan commercial, il peut obliger à réussir là où aucun Européen n'a réussi, c'est-à-dire obliger l'Allemagne à accepter de changer de politique économique en Europe. Donc la zone euro est dans une situation absurde aujourd'hui, hein. Donc on a 390 milliards d'euros d'excédent extérieur, ça représente 3% du PIB de la zone euro. Ça veut dire qu'on aurait pu dépenser 390 milliards d'euros chez nous sans aucun problème de financement, sans avoir besoin d'emprunter auprès des Chinois, des Saoudiens ou je sais pas qui. Simplement, les règles qu'on s'est fixées nous empêchent de le dépenser. Et le dépenser, c'est pas simplement plus de McDo ou plus de Mercedes, hein, c'est plus de transition énergétique, plus d'éducation, plus de recherche, etc. etc. Donc, on est dans une situation absurde et qui pèse sur les Européens, mais qui pèse aussi sur le reste du monde. Et ça fait très longtemps que les Américains, quand ils voient la politique économique qui est menée en Europe, ils disent, vous êtes complètement fous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous serrez la ceinture comme ça. Pourquoi est-ce que vous vivez en dessous de vos moyens? Vous vous faites du mal à vous-même et vous nuisez au reste du monde. Mais jusque-là, il l'avait dit gentiment. Là, Trump arrive et il va pas le dire gentiment très longtemps. Il s'occupe pour l'instant des Chinois, mais il va s'occuper des Européens après. Donc là, si les Allemands veulent continuer à vendre des voitures aux États-Unis, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Si, d'autre part, l'industrie allemande ne pourra pas continuer à exporter en dehors de l'Europe, en Chine en particulier, autant qu'elle l'a fait jusque-là, si on veut sauver l'industrie allemande, il va falloir qu'il y ait de la demande pour l'industrie allemande en Europe même. Est-ce qu'on est capable de faire comprendre aux Allemands qu'il faut qu'ils changent, qu'ils renoncent à la politique qu'ils ont menée jusque-là, qui mène l'Europe dans le mur, qui soutient les eurosceptiques? Je ne sais pas, mais je fais le pari qu'on peut y arriver.
Marion Van Rettergem, 30 ans après, où en est-on de cette relation Europe-États-Unis? Est-ce que vous voyez aussi l'arrivée d'une voix plus agressive, comme celle de Donald Trump, comme une chance pour l'Europe?
Il y a un changement radical. Enfin, c'est l'élection de Trump et la suite de l'évolution qui se dessine depuis la chute du mur en 1989, où on avait un paysage quand même géopolitique extrêmement simple sur la planète, qui était un affrontement Est-Ouest. Donc c'était assez lisible. On avait les États-Unis contre l'Union soviétique. Évidemment, toutes les cartes se sont brouillées après la chute du mur et la fin de la guerre froide. Et là, on est en train, justement, c'est ça qui s'est dessiné depuis ces 30 dernières années, qui est intéressant et inquiétant, mais il faut faire avec. C'est que la disparition, le bloc Est-Ouest s'achève au profit d'un autre axe, qui est celui des démocraties libérales contre les démocraties illibérales. Et là, notre allié historique, enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis même la Première, qui est les États-Unis, a totalement le gendarme du monde et de la démocratie, a totalement changé de camp et est en train de s'allier au camp des démocraties illibérales menées par l'agent en chef qui est Vladimir Poutine et qui essaye justement d'appuyer en sourdine de manière plus ou moins visible et plus ou moins souterraine toutes les extrêmes droites nationalistes, populistes de l'Europe, à savoir Orban, Salvini. Alors il y a que les Polonais évidemment qui détestent tellement viscéralement les Russes, qui résistent encore un peu et qui sont pourtant des nationalistes, mais il y a quelque chose. Et puis tout ça évidemment bien aidé en sous-main par l'ex-stratège en chef et conseiller spécial de Donald Trump, qui est Steve Bannon, qui entreprend une sorte d'alliance assez active en Europe, alors dont on peut espérer que justement elle n'aboutira pas, parce que personne, ces gens-là, ils ne s'entendent que sur une chose finalement, c'est de bouter les Arabes et les non-blancs et les non-chrétiens hors d'Europe. Donc ça, c'est leur socle commun. Mais sinon, quand on affine justement, ne serait-ce que sur l'histoire de le libre-échange, les politiques à mener à l'intérieur des pays, ils se détestent tous. Donc c'est une alliance qui ne tiendra pas longtemps, mais qui peut être efficace, en tout cas au moment des élections au Parlement européen.
Quelque chose qui n'a pas changé, c'est quand on regarde à l'Ouest, on regarde aussi toujours à l'Est, et vous le faites vous aussi, Guillaume Duval, dans votre livre, avec le retour de la menace russe. Alors on parlait du cycle ouvert avec la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qui a changé 30 ans après? Comment regarde-t-on la Russie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est le nouvel ennemi extérieur qui permet à l'Europe de se sentir soudée, en tout cas?
Oui, elle l'est un peu. Alors, il faut pas se tromper. Hein. Il s'agit pas de se préparer à attaquer les Russes ou l'inverse. Il s'agit bien de retrouver un équilibre et des relations plus pacifiques. Mais comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre aussi. Et donc, on est obligé de le faire. La menace russe est réelle et en plus, elle ne porte pas simplement sur l'est de l'Europe. Hein. Elle a aussi des conséquences très lourdes qu'on voit bien en Syrie, Proche-Orient. Donc, avec là aussi des conséquences très lourdes pour l'Europe avec la crise des réfugiés. Donc c'est un vrai problème. Et là-dessus, le désengagement américain nous place devant nos propres responsabilités. Alors je dois dire que là-dessus, c'est un sujet sur lequel ça s'est plutôt bien passé ces dernières années. Hein. Je pense que l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de cette question, vis-à-vis de la crise ukrainienne, moi j'étais pas sûr du tout de la manière dont l'Allemagne allait réagir. Il y a souvent une tradition d'apaisement, de volonté d'apaisement vis-à-vis de la Russie en particulier, et là Angela Merkel a réagi de manière assez ferme et c'était très positif. Mais la menace russe, elle porte aussi sur un autre créneau qui est celui de l'énergie. Donc on est très dépendant, pas tellement la France mais le reste de l'Europe beaucoup, du gaz russe. Donc la menace russe, mais aussi la dépendance vis-à-vis de gens comme aussi peu recommandables que Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite pour le pétrole, ce qui se passe aujourd'hui.
Vous vous dites que ça peut être l'occasion de, voilà, de revoir notre indépendance énergétique aussi, de repenser cette question-là.
Nous oblige à mettre la transition énergétique au cœur du projet européen. Ce qu'il faut bien penser, c'est que sur ces questions-là, l'Europe est dans une situation très particulière à l'échelle du monde. On est la zone la plus industrialisée, la plus ancienne, et c'est pour ça qu'on a épuisé sur notre propre territoire le gaz, le pétrole, le charbon, etc. Si on n'est pas capable de s'en passer, on n'arrivera pas à maintenir notre modèle social et notre niveau de vie, parce qu'il faudra donner de plus en plus de fric à des gens aussi peu recommandables que Vladimir Poutine ou Mohamed Ben Salman. On s'en est pas rendu compte pendant 10 ans parce que les prix du pétrole, du gaz étaient restés bas après la crise. Mais là, dès qu'ils ont remonté, ça a donné les gilets jaunes en France. Dès que le prix du pétrole remonte, on est squeezé. Donc il faut, et c'est autour de ça, je crois, qu'on peut relancer le projet européen, notamment parce que les gens qui sont les plus sensibles à ces questions-là, c'est les gens de l'Europe du Nord, les Scandinaves, les Allemands, les Néerlandais, et c'est les gens les plus austéritaires. Donc ils ont tellement peur du changement climatique qu'on pourrait leur faire accepter de mettre beaucoup d'argent ensemble sur la table pour l'accélérer en Europe.
La Hongrie, la Pologne et le risque que vous évoquiez, Marion Van Rettergem, de voir le modèle des démocraties illibérales devenir le modèle dominant, la règle en Europe. Angela Merkel était en Slovaquie en février dernier à la rencontre des représentants du groupe de Visegrad pour aborder le sujet qui fâche.
La dernière réunion de ce type remontait à 2016. Angela Merkel était à Bratislava en Slovaquie ce jeudi pour rencontrer ses homologues d'Europe de l'Est, du groupe de Visegrad, c'est-à-dire de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie et de Hongrie. Les gouvernements des pays de ce groupe ont multiplié depuis 2 ans les points de désaccord avec la gouvernance de l'Union européenne, notamment sur les questions de politique migratoire, dont il a naturellement été question ce jeudi. Nous avons besoin et nous voulons l'espace Schengen à l'avenir, donc nous devons protéger les frontières extérieures. Nous pouvons donc parler de migration légale, car les États membres doivent décider qui peut entrer dans leurs frontières, et non pas de migration illégale qui sélectionne les personnes qui entrent. Malgré leurs divergences, les 5 pays ont annoncé le lancement d'un projet de développement commun, notamment au Maroc.
Les dirigeants du groupe de Visegrad et la chancelière Angela Merkel sont convenus de travailler ensemble à l'élaboration d'un plan pour aider l'Afrique du Nord, en particulier le Maroc, à gérer et arrêter les migrations.
Marion Van Rettergem, je me fais gronder parce que j'ai dit Visegrad et pas Visegrad. Voilà, on a tenté, vous allez faire mieux que moi. Vous l'avez rencontré, Viktor Orban. Quelles sont les intentions? Qu'est-ce qui se joue actuellement en Hongrie, en Pologne, dans ces pays que vous avez aussi retraversés en faisant ce tour d'Europe pour tenter de comprendre le moment tourmenté dans lequel nous vivons?
Mais pour moi, Viktor Orban est un personnage qui me fascine parce qu'il incarne à lui tout seul la grande boucle de ces années de 89 à aujourd'hui. Il se trouve que moi, j'ai vécu en Hongrie il y a une trentaine d'années, que Orban, je le dis dans le livre, j'étais amoureuse de lui comme toutes les filles parce que c'était une sorte de héros, de notre... Nous avions, je sais pas, une trentaine d'années, 25 ans, je sais plus à l'époque, et c'était vraiment... Il avait été extrêmement courageux et c'était un dissident. Il était beau, il avait les cheveux longs, il avait un côté jeune révolutionnaire. Il s'était opposé seul face sur la place des héros. Il avait fait un discours absolument historique. Tout seul, il avait pris la parole. Il y avait une armada, toute l'armée soviétique en uniforme, la force d'occupation soviétique, tous les notables du Parti communiste, etc. Il avait parlé devant des centaines de milliers de personnes en disant il est temps que l'armée soviétique quitte le pays.
Donc, mais les temps ont changé et lui aussi. Il a mal vieilli pour vous ?
Il a mal vieilli, ou en tout cas, il a pris. C'est un opportuniste et un cynique, et il a compris l'air du temps et il a pris au vol ce mot, d'ailleurs, que je répète beaucoup dans le livre et qui est quelque chose qui m'a vraiment marqué en Europe de l'Est et aussi à l'Ouest, qui est le ressentiment. Et c'est quelque chose qui grandit et qui a fait fabriquer ce désamour vis-à-vis de l'Union européenne, qui est une sorte de désillusion, notamment des pays de l'Est après la chute du mur, par rapport à qui ont vu arriver, qui ont cru au paradis et qui ont finalement ont été pris un peu de court par la violence nécessaire, la violence libérale qui va avec le libéralisme, mais qui n'est pas indissociable de la liberté politique. Et du coup, il y a eu une sorte de confusion qui s'est opérée et Viktor Orban a saisi l'air du temps et est devenu le populiste, passé de libéral à populiste.
Et là encore, Guillaume Duval, pas plus inquiet que ça. Vous estimez que la Hongrie, la Pologne, de toute façon, ont besoin de l'Union européenne aussi et qu'ils sont en tout cas, là encore, peut-être les éléments, les agitateurs qui permettront à l'Europe occidentale de se ressouder face
oui,
à cette euroscepticisme.
Ça joue un rôle important, c'est-à-dire que ils mettront pas le feu à la maison parce qu'il y a Vladimir Poutine devant les portes et que ça fait quand même peur à toute l'Europe de l'Est quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre aussi d'où vient ce ressentiment. C'est un ressentiment qui là aussi n'est pas illégitime. Donc c'est des pays qui ont perdu toutes leurs grandes entreprises, qui ont été rachetées par des multinationales, qui ont perdu aussi une grande partie de leur jeunesse qui est partie travailler ailleurs. C'est des pays vieillissants où la démographie est négative. C'est des pays aussi qui n'ont été indépendants finalement qu'une vingtaine d'années entre les deux guerres mondiales et qui ont été sous un joug dans un empire dirigé depuis Moscou. Ils n'ont pas envie tout de suite d'être redirigés de nouveau depuis Bruxelles comme ils l'ont été depuis Moscou dans le Comecon. Donc ils veulent conserver leur souveraineté et je pense que ça va durer, c'est structurel. Ça a comme avantage, comme grand avantage de libérer l'Allemagne en particulier. Donc ça fait très longtemps que les Français disent aux Allemands il faut intégrer davantage la zone euro, il faut faire davantage de choses en commun. Mais jusqu'ici les Allemands ont toujours été très réticents parce que pour un chancelier, une chancelière allemande qui est installée à Berlin, à 60 km de la frontière polonaise, ce qui se passe en Pologne c'est aussi important que ce qui se passe à Paris. Mais là, avec ce qui se passe justement en Pologne aujourd'hui, je pense que les Allemands comprennent, vont comprendre, peuvent comprendre que s'ils veulent poursuivre le projet européen, avancer l'intégration européenne, ils n'ont plus d'autre choix maintenant que de se retourner vers Paris et d'avancer avec nous vers une Europe plus intégrée parce que la Pologne et la Hongrie, ça ne le fera pas dans les prochaines années.
Voilà, Guillaume Duval, un peu comme la crise italienne sera peut-être une chance pour l'Europe, d'après vous, elle nous aidera à nous doter peut-être d'une véritable politique commune en matière de migration. C'est vrai que c'est un problème.
Ça, c'est déjà fait, malheureusement, ce n'est pas la bonne, mais c'est déjà fait, oui.
Pour conclure avec vous, Marion Van Rettergem, parce que j'ai été presque ou un peu injuste au début, on disait c'était mieux avant, cette idée-là, n'empêche que vous concluez sur l'idée qu'il y a quand même peut-être un terreau fertile sur lequel reconstruire l'Europe. Je ne sais pas si celle que vous appelez de vos voeux est la même que celle de Guillaume Duval, mais vous faites le constat, un constat commun, un réchauffement climatique, le terrorisme islamiste, la pression migratoire, les multinationales du numérique, il y a un besoin d'union pour vous. Sur quoi peut-on rebondir? Sur cet échange, cette zone de libre-échange qui a été mise en place et qui a quand même l'avantage d'avoir régulé un certain nombre de secteurs? On oublie que ce n'était pas forcément mieux avant.
Oui, mais je pense qu'il y a énormément d'injustices. Enfin, il y a quand même une petite musique qui a été mise dans la tête des citoyens, dont les dirigeants politiques, les uns après les autres, sont éminemment responsables. Ils se sont facilement défaussés sur l'Union européenne chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était impopulaire, ils disaient que c'était de la faute de Bruxelles. Enfin, il y a des choses qui se sont quand même ancrées de manière très nuisible dans la tête des gens et sur des clichés totalement faux, notamment le premier étant que la Commission européenne est non élue et décide tout. Elle est non élue, certes, mais elle ne décide rien. Ce n'est pas sa vocation de décider. Elle applique et elle propose.
Donc il y a encore un sens à aller voter aux prochaines élections.
Il faut absolument aller voter.
Le 26,
ça influe sur notre quotidien.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Mon Europe, je t'aime, moi non plus pour vous, Marion Van Rettergem, chez Stock. Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe, les petits matins. C'est signé Guillaume Duval. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette belle semaine. Maya Neskovic, Laura Dutèche Pérez, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli. À la réalisation, c'était Anna Holweg avec aujourd'hui U2 Diego Aclopez. Je vous invite à regarder sur le site de France Culture parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous ce week-end au Centre Pompidou, mais aussi avec l'Esprit Public sur l'Europe dimanche matin en direct du Théâtre de l'Odéon et Émilie Oubry qui vous y attend. Très bel après-midi sur France Culture.